Bonsoir, bienvenue à La Voix de la librairie, émission web enregistrée en direct à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec. Mon nom est Catherine Doré et en compagnie de mes invités, nous allons parler ce soir de l'Amérique. Sujet vaste sur lequel nous nous arrêterons pour deux émissions. L'Amérique, c'est difficile à définir parce que c'est multiple de bien des manières. D'abord, de quoi parle-t-on? D'un continent ou de deux? Parle-t-on d'un pays ou d'un continent? Et puis, qu'est-ce qu'un Américain? Vous, moi, ici, à la librairie, est-ce que vous êtes des Américains? Est-ce que nous sommes des Américains? Où l'Amérique s'arrête-t-elle? Si c'est une culture, peut-on dire que tout le monde est Américain d'une certaine manière? Quand on sait que Michael Jackson est connu et écouté chez les peuplades les plus éloignées du monde civilisé, et là, attention, je n'utilise pas le mot « civilisation » dans le sens colonialiste, mais bien dans le sens premier de « cité ». La cité, un lieu branché sur le monde et les autres cultures, un endroit en contact avec les autres, en opposition à la tribu isolée, on pourrait dire protégée des influences extérieures. Mais même cette tribu isolée a été touchée, imprégnée par quelque chose qui vient de l'Amérique. Est-ce que c'est ça un empire? L'empire américain, au-delà de son économie et de ses soldats, ce serait surtout un empire culturel, une culture diffusée par tous les médias du monde, transmise par satellite sur toutes les chaînes de télé et de radio de la planète. Et finalement, n'est-ce pas ça qui nous heurte, qui nous choque le plus? Cet envahissement graduel de la pensée, cette homogénéité du comportement que l'on constate chez tous les jeunes de la planète. J'ai vu dernièrement un documentaire sur des jeunes Innus dans le Grand Nord. Et on les voyait à l'extérieur le soir avec des casquettes à l'envers, des grandes culottes qui pendaient sur les hanches, en train d'écouter de la musique rap au coin de la rue. On aurait pu se croire dans un quartier déserté de Détroit. Donc, comment parler de l'Amérique? Comment la décrire, la nommer, la définir, tant elle est multiple et plurielle? Alors, on ne se donnera pas le défi d'en faire le tour. Hein? On ne va pas se donner non plus le défi de saisir ce qu'est exactement l'américanité. Non, on va y aller par petites touches, en pigeant de ci, de là, touchant divers domaines et en multipliant les approches. Et peut-être qu'à la fin de ces deux émissions, il nous restera comme une certaine impression de ce qu'est l'Amérique. Ce soir, on va parler de bande dessinée, de théâtre et de cinéma. On va aussi effectuer quelques comparaisons avec un autre empire qui a régné il y a 2000 ans et qui avait aussi imposé sa langue et sa culture au reste du monde. Mais d'abord, pour commencer, on va procéder de la même manière que les Européens l'ont fait à l'époque des grandes découvertes. Nous allons entrer en Amérique par le Sud. Écoutons la pièce « America Rebelling », un texte de Pablo Neruda mis en musique par Theodorakis. Et nous vous revenons ensuite avec Roxane.
Thank you. praderas, praderas, trepida ronco, vietas de metales y galopes.
C'était la pièce Americana. Attendez, monsieur, je t'ai perdu.
America Rebellion.
America Rebellion, donc, mis en musique par Theodorakis. Bonsoir, Roxane.
Bonsoir, bonsoir, Catherine.
Alors, ce soir, on va parler ensemble de l'Amérique latine et d'un recueil de poèmes qui s'appelle El Canto General. Mais d'abord, on va parler de son auteur, Pablo Neruda. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est qui ce monsieur?
Oui, ben tout, enfin, là, c'est quand même un poète assez connu, Pablo Neruda, surtout pour ses poèmes d'amour, entre autres, très chers à David, notre libraire, n'est-ce pas? Mais je trouve ça intéressant de l'aborder cette fois-ci dans une perspective un peu plus politique, un peu plus large, avec donc cet ouvrage qu'on peut qualifier d'épique, un peu comme la oui. musique qu'on vient d'entendre, qui est le Chant Général, mm-hmm. qui est une œuvre qu'il a écrite après la mort de son père et aussi après certaines expériences en Espagne, parce qu'il avait été, entre autres, rattaché au consulat chilien un peu partout en Inde et notamment en Espagne au moment de l'installation de Franco là-bas.
Pour des gens qui ne connaîtraient pas Pablo Neruda, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'époque qu'il a vécue puis ses engagements politiques?
Oui, bien là, on parle des années 30, là, donc de l'entre-deux-guerres. Le putsch de Franco, c'est en 35. Lui, il est présent. Et cette manière, disons, le fait d'être autant proche d'événements politiques aussi forts a fait en sorte d'influencer sa poésie vers une poésie plus engagée. C'est une poésie qui, au départ, était un peu plus introspective, un peu plus personnelle. Puis ça a comme ouvert son registre poétique à des événements d'une grandeur autre, disons, mm-hmm. Plus sociaux, plus ancrés dans le réel. Et puis le Chant Général s'inscrit dans cette veine-là, dans cette tentative. Au départ, ça devait être simplement un chant du Chili lui-même. Puis c'est une œuvre qui s'est formée au fur et à mesure, là, qui a été écrite sur une bonne dizaine d'années, lui, qui a pris l'ampleur au fur et à mesure.
Lui, il est chilien? Il est chilien d'origine, Pablo Neruda?
Oui, tout à fait. Oui.
OK.
Puis au départ, donc, ça devait être plutôt une ode poétique ou nationale.
OK.
Et ça a pris de l'ampleur, c'est devenu une immense ode littéralement encyclopédique qui vise un peu à retracer la totalité de l'Amérique depuis, de l'Amérique du Sud en l'occurrence, mm-hmm. là, mais depuis donc les premiers poèmes qui s'appellent Végétation, etc. Là, donc depuis la constitution géographique, géologique, minérale, c'est très très beau. Au début, c'est très les arbres qui sortent de la terre, les différents oiseaux, puis il va tous les nommer, il va nommer tous les arbres, tous les oiseaux, toute la végétation. Donc il y a ce côté-là très encyclopédique. Là, c'est un ouvrage qui vient avec glossaire, il y a plusieurs mots, des termes inconnus. Il a écrit lui-même, ce qui est intéressant, dans la clandestinité.
Oui, c'est ça. Il était exilé à ce moment-là?
Oui, tout à fait, parce qu'il y avait un ancien, enfin un politique dont il avait été proche auparavant, mais qui s'était retourné contre les communistes. Okay. Et lui-même avait une allégeance communiste très forte.
D'accord.
Donc, il a dû fuir son pays, vivre en exil pendant un bon moment. Puis c'est pendant ce temps-là qu'il a écrit donc ce canto général. Grosso modo, c'est lui-même qui raconte ça. en utilisant les ouvrages qui lui tombaient sous la main, des encyclopédies générales, des vieux bouquins perdus au fond des greniers. Puis c'est assez intéressant, dans la préface, il raconte comment à chaque fois où il avait besoin de tel matériel de nature plus historique ou encyclopédique, ben un peu miraculeusement, il tombait dans le fond d'un grenier sur le bouquin dont il avait besoin. Puis il a vraiment rassemblé, colligé tout ce matériel-là pour faire une énorme fresque à la mémoire, finalement, de l'Amérique du Sud, et non pas seulement de son pays, mais
oui,
de vraiment
ça,
l'ampleur
c'est
du continent. Là. Donc, ça, il peut avoir, puis c'est très, très diversifié, c'est très foisonnant. Ça, c'est un peu à l'image, je sais pas, de la forêt amazonienne,
oui.
Où ça sort de partout, oui. Ça pullule partout, et il y a de tout, vraiment. Puis il s'amuse aussi beaucoup à mélanger même les univers historiques, à, par exemple, superposer les luttes de libération face aux conquistadors espagnols, aux luttes de libération plus contemporaines, mm-hmm. à rappeler des souvenirs de libérateurs anciens. Il va tous les nommer les uns après les autres. Donc, il y a une manière aussi de remercier un peu ses prédécesseurs, puis d'inscrire la lutte nationale actuelle dans une lutte nationale passée aussi, puis de reconstruire une identité américaine.
Est-ce que tu as une idée de son parcours durant ces 10 années où il a écrit le livre? Est-ce qu'il s'est promené d'un pays à l'autre en Amérique du Sud?
Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop. Ou je crois que... je pense qu'il s'est plutôt baladé en Amérique du Sud, mais je ne pourrais pas le confirmer exactement
okay.
parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé quand même. Comme je l'ai dit au début, il a été rattaché au consulat. Il y avait des fonctions comme ça, administratives, consulaires. Donc, il a beaucoup voyagé dans le monde.
Okay.
Il a beaucoup voyagé en Amérique du Sud aussi et en Europe. Il était en Espagne, il était en France, etc. Donc, c'est un peu, c'est comme beaucoup un citoyen du monde. Donc, je ne saurais pas dire précisément pendant ces années d'exil où il était.
OK. Et pour en revenir donc au chant général, El Canto General, dans son titre original, c'est divisé en 5 parties, je pense. Hein?
En fait, au total, il y a 15 chants. Qui constitue un total de 231 poèmes
voilà.
et de 15 000 vers. Donc,
voilà.
c'est vraiment à l'image un peu, l'épopée de Gilgamesh ou des grands textes comme ça, anciens, épiques, Homère, etc., avec les listes interminables des vaisseaux ou autres. Il y a cette espèce d'ambition là, totalisante dans son projet à lui de ces 15 000 vers là, qui va comme ressusciter finalement toute l'histoire de l'Amérique du Sud. Puis j'avais une assez belle citation à ce titre-là où il raconte en fait un peu lui-même, je ne sais pas où c'est paru exactement, peut-être dans sa correspondance ou dans son autobiographie, là, j'avoue que j'ai vécu. Il raconte un peu lui-même la genèse du projet qui est né entre autres suite à une visite au fameux site là, de Machu Picchu,
oui.
Que tout le monde connaît. Là, où il est... Puis il raconte donc, après avoir vu les ruines de Machu Picchu, les cultures fabuleuses de l'Antiquité me semblèrent de carton-pâte, de papier mâché. Je ne fus plus capable ensuite de me détacher de ces constructions. Je comprenais que si nous foulions la même terre dont nous avions hérité, nous devions être reliés d'une certaine façon à ces grands efforts de la communauté américaine, que nous ne pouvions les ignorer, que notre ignorance ou notre silence étaient non seulement des crimes, mais encore la perpétuation d'une défaite. Le cosmopolitisme aristocratique nous avait amenés à vénérer le passé des peuples les plus anciens. Il nous avait mis des ornières, nous empêchant de découvrir nos propres trésors. J'ai pensé à beaucoup de choses après ma visite au Cuzco. J'ai pensé à l'homme américain du passé. J'ai vu ses luttes anciennes confondues avec ses luttes actuelles. Donc ça, c'est un peu l'image qu'il voit, puis qu'il va tenter de rendre, de fondre les luttes anciennes et les luttes actuelles dans un vaste poème.
Donc ça a été un parcours initiatique pour lui aussi, là, de se promener en Amérique du Sud comme ça durant ces 10 ans-là. Il a découvert...
Oui, certainement aussi. Puis, ça lui a puis d'ailleurs, c'est ce qu'il raconte, là, le poème en lui-même, comme je l'ai dit, est très foisonnant, très mélangé. Il y a un côté encyclopédique, il y a un côté très autobiographique. Toute la fin raconte plus son propre périple. C'est un peu aussi l'amorce de ces autobiographies qui va paraître de manière posthume, là, j'avoue que j'ai vécu, dont on trouve l'amorce dans cet ouvrage-là. Donc, c'est une espèce de matrice ou de genèse totale, finalement, de l'œuvre, avec des passages où il raconte sa vie, des passages où il raconte l'histoire, des passages où il y a même, à la toute fin, là, une espèce d'ode au Parti communiste, parce qu'il il y a un moment, il a été aussi critiqué pour ça, il y a un moment où il essaie de sauver le stalinisme, une espèce d'ode à Staline, qu'on lui a demandé de retirer, il a toujours refusé. Donc, c'est très divers, là. Il y a absolument de tout.
J'aimerais que tu me parles des différents modes d'écriture qu'il y a dans ce livre-là. Il passe d'un style très poétique à un style très prosaïque.
Il est confronté à la difficulté de faire, disons, d'utiliser la matière historique et politique dans une œuvre poétique, ce qui est vraiment un défi. C'est quand même une matière qui est rarement utilisée par les poètes. On est loin, bon, des 100 poèmes d'amour ou autre. Là, c'est pas une matière très lyrique, disons, a priori. Puis c'est une chose qui lui a été reprochée. Là, il raconte qu'on lui a beaucoup reproché le prosaïsme de l'œuvre, comme si ce trait, là je le cite, comme si ce trait entachait ou ternissait cette œuvre. Mais pour lui, ce prosaïsme est inséparable de son concept de chronique. Le poète doit en partie être le chroniqueur de son époque. La chronique ne doit être ni quintessencée, ni raffinée, ni érudite. Elle doit être ruqueuse et quotidienne, pleine de poussière et de pluie. Elle doit porter la trace misérable des jours inutiles, des dégoûts et des lamentations des hommes. Okay. Donc, on lui a reproché ce prosaïsme-là, mais en même temps, lui, il l'a plutôt revendiqué comme faisant partie, justement, de ce projet totalisant, regroupant une chronique de tout et des choses prosaïques et des choses...
Parce qu'il y a un style très poétique aussi, là. Là, il y a les deux, là, dans son...
Ouais, ben, disons,
est-ce qu'on peut avoir des exemples?
C'est plutôt inégal, ben, inégal, dans le sens où, forcément, il y a de tout. Donc,
c'est ça, c'est diversifié.
C'est diversifié. Il y a des passages qui vont être... très critique et qui semble moins poétique, mais des passages qui sont poétiquement très beaux. Au tout début, par exemple, je lis un passage. « Si la fleur à la fleur livre sa haute graine et si le roc maintient sa fleur disséminée dans son habit battu de diamants et de sable, l'homme froisse le pétale de la lumière qu'il recueille aux sources spécifiques de la mer et fort le métal qui palpite en ses mains. » Donc là, on est vraiment dans la
poésie puis dans la description, comme tu disais tout à l'heure, là, comme du début là, de l'Amérique.
Oui, oui, tout
sauvage.
À fait. Oui, avec, donc là, on est vraiment dans la matière poétique. Et à d'autres moments, il va utiliser de manière beaucoup plus brute là, le matériel purement politique ou revendicateur. Dans un passage intitulé « Les avocats du dollar », par exemple, il écrit « Enfer américain, pain nôtre, imbibé de poison, une autre langue orne ton brasier perfide, c'est l'avocat aborigène, le larbin du trust étranger. C'est lui qui rivette les fers de l'esclave en sa patrie et qui, dédaigneux, se promène avec les castes des gérants en regardant d'un air superbe nos drapeaux pleins de déchirures. Où habite, me direz-vous, ce virus-là, cet avocat, ce ferment de la déjection, ce redoutable pouls sanguin qui se gave à même nos veines? Oui. Il habite les régions basses équatoriales, le Brésil, mais il a aussi sa demeure à la taille de l'Amérique.
Oui, il parle de...
Il y a tout un passage. oui, là, il parle, par exemple, des avocats étrangers, des colonisateurs. Puis il y a tout un passage là, où il parle également. Je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long, mais avec des passages, par exemple, intitulés là, l'Anaconda Cooper Mining Company,
okay.
Juste un peu avant la Standard Oil Company. Donc là, on est presque dans le règlement de compte.
Ouais, oui.
Et on est plus loin d'une matière purement poétique ou, comme je le disais tantôt, à la fin, une espèce d'ode au Parti communiste. Là, c'est carrément... c'est presque un manifeste. Donc, ouais. On est très éloigné. Donc, il y a des moments où la fusion du poétique et du politique se fait bien, puis il y a des moments où on est dans l'un ou dans l'autre. Là.
C'est très, très, très
donc, c'est très riche comme ouais. C'est très riche comme œuvre.
Parce que déjà, l'extrait que tu nous as lu, ça reste très poétique quand même. Là. Il n'y a pas de... Ça reste de la poésie. Là.
Oui, oui, tout à fait, mais disons, enfin, ça demeure un recueil de poésie, oui, bien sûr.
J'ai lu aussi qu'il avait commencé à lire ça le lendemain de la mort de son père.
Qu'il avait commencé à l'écrire le lendemain de la mort de son père, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça marque sans doute un jalon dans son histoire, dans son autobiographie. Peut-être une manière aussi de reformer ou de retrouver des racines au moment où lui-même devenait orphelin, puisque sa mère étant morte alors que lui était en très bas âge, peut-être que le fait de se retrouver orphelin le pousse à désirer fonder finalement son pays et plus largement le continent entier, je ne sais pas.
Bien, est-ce qu'il y a autre chose?
Il y aurait mille choses à dire, mais je pense que c'est tout simplement une œuvre à découvrir, puis à un peu, pas feuilleter au hasard, mais avec laquelle vivre et apprendre à petite dose, oui, avec laquelle vivre un petit moment, quoi, tout simplement. Une très belle œuvre à découvrir.
Merci beaucoup, Roxane.
Avec plaisir.
Alors, on va faire une pause musicale et on va revenir ensuite avec Simon qui va nous parler de bande dessinée. On connaît surtout la culture américaine par son cinéma et sa musique. Alors, qu'en est-il de la BD? Simon va nous expliquer ce qui caractérise la BD américaine. Alors, on va écouter Champion Sound de Crystal Fighters.
Joysucker, well, joysucker could take the choice I took to take the choices out of your hands and put them in my hands. And it's all good, yeah, it's all good. I got the bag, got the books, skip the town goodbye. With no bad feelings, no heart broke, hit the road. And so I moved to England and started seeing what we're doing. Still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away in the day now. Let's hope that someday I'll play my concertina to an arena full of people. Or dream my life away, dreaming of the day. When I find my girl, love will be amazing. Champion sound. When I find my girl, love will be amazing. Champion sound.
C'était Champion Sound de Crystal Fighter. Bonsoir Simon.
Allô Catherine.
Donc, la BD américaine, on connaît beaucoup le cinéma américain, on connaît la musique américaine, mais la bande dessinée américaine, a priori, c'est pas ça qui nous vient à l'esprit quand on pense à la BD.
Ben, en fait, au Québec, peut-être que c'est vrai, mais présentement, la BD américaine n'a jamais été aussi connue, en fait, dans le monde, pas vraiment à la BD, mais plutôt au cinéma.
Au cinéma, justement, ouais, oui, qui reprend les grands personnages des comics. Oui,
et qui les met de plus en plus populaires. En fait, là, présentement, c'est une avalanche de films de super-héros dont on a droit.
Oui.
Donc, mais le monde souvent ne connaît pas en fait, le format original, la BD américaine, le comic book.
Okay.
Mais connaissent vraiment le héros, en fait, souvent sans rien connaître
de la bande dessinée, d'où il vient, ce héros-là.
Exactement, ouais, les origines.
Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de la bande dessinée américaine? Comment tout ça a commencé?
Oui, bien, en fait, la bande dessinée américaine, elle commence comme un peu partout ailleurs, sous forme de comic strip. Donc, c'est les bandes qu'on voit souvent en trois cases, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les journaux. Donc, il y a toujours la page, la funny page qu'on appelait en anglais. Donc, la page qui renferme les caricatures et souvent, bon, en trois cases, une petite histoire, un début, un milieu, une fin, un punch. Puis, ben, ces comics strips-là ont commencé déjà dans les années 1800. Donc, c'est la première forme de BD contemporaine. Avant ça, on pourrait, bon, si on extrapole, on peut même dire que la tapisserie de Bayeux serait une bande dessinée parce qu'en fait, c'est des dessins qui suivent dans le temps, qui racontent une histoire. Mais la première bande dessinée, donc, avec le schéma actuel, donc des cases, des ballons pour faire parler les personnages.
Est-ce qu'on pourrait dire que ça a commencé à peu près en même temps que les journaux, finalement?
Je pense, peut-être en fait, mais je ne sais pas exactement quand les journaux commencent.
Un peu après, j'imagine. Oui,
sûrement, mais ça fait partie, je pense, un peu du journal classique à l'époque, la presse, où tu utilisais beaucoup les caricaturistes, justement, pour faire un peu de la dérision envers la politique.
Oui.
Et puis, bon, il y a du monde qui a commencé à se dire qu'on pouvait faire parler les dessins en mettant des ballons. Donc, on l'appelle phylactère dans le langage de la bande dessinée.
Mm-hmm.
Et puis, ben, le premier, c'est un Suisse, Rodolphe Toffner. Mais les Américains ont engendré le pas. En fait, les Américains, eux, pensent toujours qu'ils ont tout inventé. Donc, pendant longtemps, ils ont pensé que le premier comic strip était américain. Mais
en fait,
ils se sont fait mettre devant l'évidence. C'est un Suisse, dans un journal suisse, qui a fait le premier comic strip. Et puis, ben, le comic book, comme on le connaît, lui, commence plutôt en 1934. C'est quand les gens se sont dit, bon, OK, les comic strips, le monde aimerait ça les relire, parce que souvent, on ne garde pas les journaux là, éternellement dans nos affaires à la maison. Donc,
avant de tomber au comic, tu peux me dire, en Amérique, c'est quoi le premier comic strip aux États-Unis, quand ça a commencé?
The Yellow Kid, en 1890.
OK.
D'un dénommé Richard F. Houcault. C'est un nom un peu français.
Ben oui, c'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais dire.
Oui, en fait, c'est peut-être un français, mais j'ai aucune idée, en fait. Mais je sais qu'il y a un nom qui sonne un peu français. Mais c'est ça, c'est le premier comic strip. Donc, on pouvait suivre ses aventures de jour en jour, probablement de semaine en semaine. Il y avait un nouveau trois nouvelles cases qui paraissaient, puis qu'on pouvait un peu suivre ses aventures.
Okay.
C'est le premier comme héros de la bande dessinée américaine, si on peut dire ainsi.
En 1890.
Oui, à peu près. Puis, OK. En 1934, comme je le disais, c'est ça, le monde s'est dit, bon, OK, on aime ça les comic strips, mais on ne garde pas les journaux à la maison, c'est fini par s'empiler. Donc, on commençait à faire des espèces de revues qui regroupaient les comic strips, qui mettaient les strips, ou les bandes plutôt, d'où la bande dessinée en fait, mettaient les strips un en dessous de l'autre pour qu'on puisse suivre l'histoire, un peu le déroulement. Puis c'est là, en fait, qu'est devenue la particularité du comic book américain, c'est que ces genre espèce de petites revues-là qui regroupaient tous les strips qui étaient sortis dans le mois, sortaient à chaque mois. Donc, à la fin du mois, tu pouvais acheter tous les strips qui étaient parus dans le mois. C'est devenu le comic book, l'espèce de magazine de bande dessinée.
Okay.
Et puis, en 1938, ben là, apparaît dans une de ces revues-là le premier super-héros américain.
Qui est?
Superman!
Superman!
Hey, c'est une comète! Hey, c'est un avion! Non, c'est Superman!
C'est vraiment le premier super-héros américain, c'est Superman.
Ben, c'est le premier super-héros qui reste, en tout cas, dans les mémoires, qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Encore des comic books qui sortent de Superman.
Ben oui.
S'il y en a eu avant, ils ont malheureusement été oubliés. Donc, Superman, c'est vraiment comme celui qui a déclenché la passion américaine pour les super-héros. Juste un peu après, quelques années plus tard, en fait, je pense que c'est 2 ans plus tard, va arriver Batman, et puis là, bon, ça va s'enclencher, voir la panoplie de super-héros qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, ben, c'est justement Superman, lui, paraît dans une revue, un magazine, qui est à l'époque un espèce de réimpression de comic strip.
Okay.
Mais Superman est un essai, lui, c'est vraiment une histoire au complet. C'est un essai que les gens ont fait, et ça a marché, le monde s'est dit, wow, le comic strip, là, c'est le fun, là, mais une vraie histoire qui suit page en page, qui n'est pas juste des bandes, là, c'est amusant. Tu sais, on peut
En plus, ce que tu me dis, c'est que Superman, c'est le premier comic book qui a été fait.
Aux États-Unis. Parce que je pense qu'en Belgique, il y a eu...
Il y en avait avant.
Oui, en France, en Belgique, c'est là aussi que... Tu sais, c'est dans l'Ouest, dans l'Occident, il y a comme deux gros mouvements de bande dessinée. Il y a celui des États-Unis et il y a le mouvement franco-belge, celui qu'on est vraiment habitué.
Oui.
Donc, en 1938, il y a l'âge d'or des comic books, comme on l'appelle, le Golden Age. Ça, c'est le tout ça. Et c'est l'entre deux guerres. Il y a aussi un autre mouvement, c'est que le puritanisme aux États-Unis, on sait, c'est quand même assez fort. L'espèce de conservatisme religieux ou même social, en fait. Donc, les gens commencent à se dire que la bande dessinée, c'est peut-être un mal. Donc,
ah bon?
Un peu comme le cinéma aujourd'hui, ça pervertit nos jeunesses. Et puis là, il y a du monde qui commence à faire pression pour qu'on interdise les comic books aux États-Unis.
Puis c'est comme la musique rock?
Oui, ou la musique rock. Oui, le heavy metal pervertit notre jeunesse. Donc, les comic books, c'est un peu la même chose dans les années 50.
C'est drôle, ça m'étonne pas.
Et puis là, il y a un congressiste américain qui finit par créé le Comic...
Authority.
Oui, Comic Code Authority, qui est une espèce de programme de censure qui va devoir analyser le contenu des bandes dessinées à chaque mois pour pouvoir dire est-ce que cette bande dessinée-là est passable, elle n'endommagera pas notre jeunesse,
la morale.
Ne pervertira pas. Ouais, c'est ça.
Et puis là, bonne valeur américaine.
Oui. Et puis là, ça met fin un peu à l'âge d'or du super-héros. Donc là, aussi entre-temps, il y a eu beaucoup de BD genre qui sont sortis aux États-Unis. Donc la BD d'horreur commence à être plus populaire un peu. La horreur entre guillemets toujours. Là, c'est pas de la grosse horreur, c'est pas Stephen King, mais c'est de l'horreur avec des monstres, tout ça. La BD western, commence à avoir de la BD western. La BD de romance, donc la BD sentimentale, probablement pour plaire à un public qui se voulait peut-être plus féminin à l'époque. On cherchait des nouveaux marchés. Et puis là, en 1956, c'est une nouvelle étape. C'est le début de l'âge d'argent, de Silver Age.
Okay.
C'est DC Comics, c'est encore une grosse compagnie. C'est elle qui a les droits, par exemple, sur Superman, sur Batman, tout ça. Elle fait en fait un test. Elle essaie de réintroduire le super-héros qui avait un peu dépéri, qui était devenu moins populaire le monde, la guerre avait changé un peu les choses aussi. Puis on réintroduit un super-héros qui était mort il y a longtemps sous une nouvelle forme pour plaire plus au... Parce que le super-héros avait vieilli avec le temps. Au fur de ses aventures, il avait vieilli. Puis là, ils ont réintroduit un nouveau super-héros qui avait le même nom, qui était pareil, qui s'appelait Flash. Comme le super-héros, c'est le petit bonhomme rouge qui court vite.
Oui, oui, ça me dit quoi,
vraiment? Ouais, on le voit des fois. C'est pas Flash Gordon, par contre, il y a une différence. Puis Flash, c'est le héros qui court super vite. Puis là, ils ont réintroduit, puis là, ils sont aperçus que la jeunesse avait soif de super-héros.
De super-héros.
Et puis là, cet âge d'argent-là a donné, là, c'est vraiment l'âge classique des super-héros. C'est elle qui a formé un peu la base de la BD américaine de super-héros telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Là, on est dans les années 50, c'est ça?
50,
hein?
60, début 70. Là, c'est à peu près 25 ans, cette période-là. Et puis gros, Marvel, c'est Spider-Man, c'est les Quatre Fantastiques, les X-Men, c'est tout ça. Donc... c'est dans cette période-là qu'apparaissent les super-héros de Marvel. Puis là, la particularité de Marvel, en fait, qui a fait qu'ils sont devenus hyper populaires rapidement, c'est qu'ils essayaient de plaire aux jeunes. Ils essayaient de faire des super-héros qui avaient un côté humain. Et non pas Superman. Tu sais, Superman, il est comme invulnérable, il est super gentil, il n'a aucun défaut.
Oui, il est parfait.
Il est parfait. Tandis que les super-héros de Marvel, eux, ils avaient des défauts. On pouvait plus se relier à eux. Tu sais, Spider-Man... En fait, c'est quoi? C'est un geek, c'est un nerd à l'école qui se fait mordre par une araignée. Puis là, tout à coup, boum, il devient une personne qui voit son oncle mourir et qui devient...
Oui, c'est ça. Tu parles de Iron Man, là?
Non, Spider-Man.
Mais Spider-Man. Iron Man aussi, il n'était pas parfait.
Non, Iron Man, non, c'est un riche qui a plusieurs conquêtes, qui est hyper prétentieux, tourné sur lui-même. C'est vraiment pas un
Donc, ce sont des super-héros qui sont plus humains, finalement, qui ont des côtés plus humains.
Ça, c'est la méthode Marvel, un peu, pour essayer de rejoindre un peu plus le lecteur. Tandis que, disons, Batman, un hyper milliardaire qui tripe sur les chauves-souris, ou bien Superman, qui est une espèce d'enfant extraterrestre repêché par des gens au Kansas, puis devient une espèce de super-héros invulnérables, trop parfaits, c'est le fun à aller parce que ça nous fait rêver, mais ça nous rejoint moins, disons, qu'un gars comme Spider-Man, justement, qui a plein de défauts puis qui essaie de passer ses examens pour entrer à l'université. Tu sais.
Okay.
Puis après ça, on est rendu, il y a eu le Golden Age, le Silver Age. Après ça, c'est le Bronze Age, l'âge de bronze.
c'est toi qui as inventé ces séparations-là?
dire que j'aurais inventé ça, ce serait un sacrilège dans le milieu des aficionados de comic books.
Okay. C'est reconnu officiellement, le Golden Age, Silver Age.
Ça fait partie de la mythologie de la BD
américaine.
Je pense que l'origine de cette dénomination-là, ça fait partie des... Parce qu'il y avait un truc aussi dans les magazines des comic books à l'époque qui est un peu moins retrouvé aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la BD, les deux dernières pages, c'était des lettres des lecteurs. Donc, les lecteurs écrivaient à la compagnie, et la compagnie publiait les lettres un peu comme un courrier du cœur, mais là, c'est un courrier du cœur envers leur super-héros. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai tellement aimé l'épisode numéro 25 », tout ça. Puis, il y a un gars qui a dit « Hey, on vient d'assister à la fin de l'âge d'or de la bande dessinée. » Puis, c'est un peu resté dans la mentalité. Le monde a continué à en parler, comme l'âge d'or, l'âge d'argent. L'âge de bronze, justement, où j'étais rendu, c'est un peu... c'est comme un peu le temps mort dans la BD. Ça fonctionne encore, mais le monde sont un peu plus déconnectés. Ça devient très violent aussi à l'époque.
OK.
C'est comme...
Les années 70,
ça? Ouais, 70-80. Je pense que c'est un peu l'espèce de retour de guerre du Vietnam où je ne sais pas trop, probablement que le négativisme est un peu partout à cette époque-là aux États-Unis. Et puis là, il y a une autre personne qui va arriver qui va être super majeure, un peu comme Stan Lee a été pour Marvel quand il a introduit toutes les Stan Lee, c'est le gars qui a inventé tous les super-héros de Marvel, ou à peu près. Il y a un gars qui arrive qui s'appelle Alan Moore, c'est un Anglais, donc pas un Américain, mais un Anglais, qui introduit une BD qui s'appelle The Watchmen.
Okay.
Et puis là, ben, ça va révolutionner encore une fois, ça va devenir une BD qui ne s'intéressera plus vraiment à la jeunesse, mais qui va devenir une BD hyper adulte, en fait, qui va s'intéresser avec des. Souvent, qui va être beaucoup plus littéraire, qui va s'intéresser beaucoup à un auditoire plus mature, en fait. Donc, ça va devenir un peu ce qu'on appelle encore aujourd'hui, qu'on a présentement dedans, c'est l'ère moderne du comic book.
OK. Donc, c'est l'époque actuelle.
Oui, il y a comme quatre âges, puis ça, c'est en 1986, c'est Alan Moore. Puis il y a aussi Frank Miller avec The Return of the Dark Knight, qui est une BD en fait, qui a influencé un des films de Batman qui est sorti, pas le dernier, mais l'avant-dernier.
Okay. Qu'est-ce qui caractérise la BD américaine par rapport à la BD européenne, par exemple?
Il y a deux choses, en fait. Premièrement, le format est très différent. La BD européenne, c'est qu'on connaît beaucoup, là, par exemple, Tintin, Astérix, tout ça. C'est une BD qui a un format très, très, très standardisé, qui est une BD d'environ 48 pages, format cartonné, solide, rigide. C'est celle qu'on a à la maison souvent, là, Tintin, Astérix,
oui,
Gaston Lagaffe, oui. Spirou et Fantasio, sont tous dans le même format.
Achille Talon.
Oui, c'est ça. Et ça, ces BD-là, bon, ben, il y a certainement une pression de l'éditeur. Il faut quand même faire de l'argent avec nos bandes dessinées, donc il faut quand même les sortir. Mais souvent, les gens vont prendre peut-être un an ou deux entre chaque bande dessinée, des fois plus. Et puis, ces bandes dessinées-là, justement, sont assez dispendieuses, sont environ 20-25 $ souvent.
Il y a une qualité là, d'impression puis d'édition.
Oui, exactement. L'éditeur met beaucoup d'argent dans le format, dans le contenant. Tandis qu'aux États-Unis, on a plutôt axé la production sur la quantité. Donc, chaque mois, il va y avoir une nouvelle BD du super-héros qu'on aime qui va sortir. Sauf que cette bande dessinée-là est dans un format beaucoup moins dispendieux. Donc, c'est un format magazine, espèce de papier un peu ciré, couleur, mais pas rigide du tout. Donc, un peu comme notre séjour ici au Québec. Mais c'est juste 20 pages, mais ça force quand même les créateurs à produire.
Beaucoup plus.
Parce qu'ils ne doivent pas faire 48 pages aux 2-3 ans.
Ça doit être moins dispendieux aussi,
oui,
l'acheter.
Oui, c'est environ 3-4 $. Okay. Sauf que faut que le gars qui crée une bande dessinée ait de l'imagination pas mal, parce qu'il faut qu'il produise environ 300 pages, ben 250 pages de BD.
Il faut qu'il dessine
année.
Vite.
Oui, donc ça c'est une des premières différences, en fait. C'est que le format n'est pas du tout le même. Il est plus cheap, mais plus en plus grande quantité.
Puis est-ce qu'on fait ça pour faire plus de cash? Ben, comme on soupçonne toujours le capitalisme derrière ça.
Oui, évidemment, là, on parle de BD américaine, on se dit tout de suite, OK, ces gars-là, c'est des requins, ils veulent faire plus d'argent. C'est sûrement vrai, en partie. Il y a aussi le fait que le format mensuel, plutôt, j'allais dire hebdomadaire, ce serait encore plus fou, mais le format mensuel fait qu'on peut, par exemple, dans une bande dessinée, introduire un héros dans une autre bande dessinée.
Ah oui.
Donc, par exemple, je sais pas moi, cette semaine, Spider-Man reçoit les Quatre Fantastiques. Là, ben, on dit, oh, si vous voulez suivre les aventures des Quatre Fantastiques, allez voir dans la BD les Quatre Fantastiques. C'est les héros de cette bande dessinée-là. Donc, on force un peu le lecteur à aller voir ce qui se passe ailleurs dans les autres BD.
Okay.
C'est un inconvénient parce que ça coûte vraiment cher à un moment donné si on suit toutes les BD à chaque mois. Mais c'est aussi un avantage, c'est que ça permet de créer un monde. Il y a plusieurs BD par mois qui sont écrites dans le même monde. Un peu comme, par exemple, Tolkien a inventé la Terre du Milieu. Mais le Marvel Universe, l'univers de Marvel, c'est un monde en soi qui est basé autour de New York, qui est basé en réel, mais qui est super large, parce qu'il y a plein de BD qui sortent à chaque mois qui parlent de ce même univers-là.
Puis ça existe toujours, là, le comic book, là, en version papier cheap, couverture souple. Ça se vend encore, là?
Oui, ça se vend encore. En fait, ça se vend dans des boutiques spécialisées, qui sont des comic book shops. On la retrouve pas mal aux États-Unis. Ici, à Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a trois ou quatre, peut-être, que je connais. Deux plus grosses, deux plus petites.
Puis avec toujours les mêmes super-héros qui existent depuis un siècle.
Oh, oui, oui, et même souvent, comme par exemple Batman, il peut avoir 5 bandes dessinées qui portent le titre de Batman.
Okay.
Batman 2. Et un petit titre qui fait que c'est différent de l'autre bande dessinée. Donc, on est forcé, si on aime Batman, d'acheter 4-5 bandes dessinées par mois.
En terminant, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont davantage américaines? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent dans la BD?
Oui. En fait, la bande dessinée américaine, c'est vraiment, ça suit beaucoup ce qui se passe dans l'histoire des États-Unis. Souvent, comme par exemple, le président américain va changer en fonction des élections. Jamais on voit sa face clairement, mais dans les nouvelles BD, le président américain est noir.
OK.
Oui, il est noir. Le président américain, quand Captain America s'adresse au président américain, on le voit un peu flou, mais il est noir. Il ressemble pas vraiment à Barack Obama, mais il est noir. T'sais, on suit la mentalité. Comme après le 11 septembre 2001, le terroriste est venu partout dans la bande dessinée. Il y avait des attaques terroristes de tous bords, de tous côtés. On voulait essayer de gruger ce sujet-là le plus qu'on pouvait.
C'est un peu la même mécanique qu'au cinéma, finalement, parce que le cinéma américain fait un peu ça. En temps de guerre, on fait des films de guerre.
Oui, en Corée du Nord aussi, on fait beaucoup ça. En
puis fait, l'ennemi change au gré des...
Oui, sauf en Corée du Nord, c'est toujours le même ennemi. Mais il oui. y a aussi beaucoup de... Ben, les invasions extraterrestres, toujours un sujet foisonnant pour la BD américaine. Quoi de mieux que l'envahisseur étranger, il fait pas de mal. On le connaît pas. Donc, c'est un ennemi parfait. On présuppose pas que telle personne est méchante. C'est un extraterrestre, donc il est forcément méchant.
Donc, dans la BD américaine, on a aussi, à un moment donné, l'ennemi est russe. Puis, à un moment donné, plus tard, l'ennemi est devenu asiatique.
Comme dans les années 70, il y avait beaucoup de bandes dessinées qui tournaient autour du Vietnam. Il y avait beaucoup d'ennemis vietnamiens ou coréens, par exemple. T'sais. Donc, ça suit un peu la mode du temps, mais c'est souvent très patriotique comme bande dessinée, parce que c'est des super-héros, évidemment.
Oui, ben oui.
Et c'est aussi très, très politisé. Maintenant, depuis les années mi-80, là, c'est très, très souvent, bon, justement, la guerre froide, je pense, a marqué un peu la bande dessinée aussi américaine. C'est très politisé. Et souvent, en fait, on pense souvent que la bande dessinée américaine, les comic books, c'est pour les enfants, mais je te dirais que les films sont beaucoup plus pour les enfants, plus familiales que la bande dessinée.
Et en terminant, pour des gens qui voudraient connaître un petit peu mieux l'univers de la BD américaine à l'extérieur là, de Batman puis de Superman, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais suggérer?
Oui, j'ai deux, trois trucs qu'en fait que rapidement. Je vous conseille de lire, il y a une BD qui est un chef-d'œuvre, la BD américaine, faite par un juif américain qui s'appelle Art Spiegelman. La BD s'appelle Maz. C'est une BD sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça sort du courant du super-héros totalement. Et c'est la personnification, en fait, des Juifs, des nazis, tout ça, sous la forme d'animal. Donc, les Juifs sont des souris, les Allemands sont des chats. Et les Américains sont des chiens.
Okay.
Des chiens vaillants et courageux. Et puis, c'est ça. C'est un classique de la bande dessinée. Ça a gagné, en fait, le prix Pulitzer en 89.
C'est
la seule bande dessinée à l'avoir gagné. Sinon, je conseille Will Eisner, qui est un BDiste américain, qui a écrit beaucoup de choses, justement, qui a un peu réinventé la façon de faire la BD américaine, qui s'est un peu séparé du super-héros pour faire des trucs. C'est un peu un des premiers avec Robert Crumbs à avoir fait de la BD underground un peu, qui s'adressait pas vraiment aux fans de super-héros, mais plutôt aux gens qui aiment lire des romans, en fait, qui est un peu l'inventeur du roman graphique, le fameux roman graphique pour... les gens qui ont peur de dire qu'ils lisent des BD, mais qui vont, vont dire « je lis des romans graphiques
okay. ».
Ah, c'est quoi un roman graphique? Ben, c'est une BD, mais en gros, c'est ça. Puis, en terminant, j'avais une autre suggestion. Je finis rapidement un truc plus récent.
Oui.
Brian Wood, s'appelle DMZ. J'ai failli en parler pour une des dernières thématiques. C'est sur la Révolution. C'est
ça? Oui?
Oui, c'est une BD où Manhattan est pris, c'est une zone démilitarisée. Et puis, il y a comme une guerre civile aux États-Unis. C'est super brillant. C'est écrit... ça se passe vraiment dans le 21e siècle. Ça s'appelle DMZ.
DMZ.
Pour Demilitarized Zone.
OK.
Et je le conseille à tout le monde. C'est bien de s'achever, en fait. Que c'est encore tout chaud. Ça vient de finir, là, la série. C'est un peu... j'ai pleuré un peu en voyant la fin, mais bon... je le recommande fortement.
Ben merci beaucoup, Simon. Il y a David, notre libraire, qui aimerait faire une intervention. Il aimerait venir nous dire un petit quelque chose au micro. Oui, David?
En fait, c'est quant à votre commentaire tout à l'heure sur la pas du game, mais sur le fait de faire plus d'argent en publiant plus de revues.
Oui.
J'ai ici une citation d'un personnage illustre américain qui dit, et je cite, « Je pense que c'est bizarre et que c'est n'importe quoi. » Laisser entendre que nous sommes motivés en toute chose par l'appât du gain. Je pense que c'est débile. Je pense que vous auriez intérêt à retourner à l'école. » Et c'est signé George H.W. Bush en réponse à des accusations selon lesquelles son fils aurait envahi l'Irak afin d'ouvrir de nouveaux marchés aux sociétés américaines.
Merci beaucoup, David, de parfaire notre culture américaine comme ça. Alors, on va faire une petite pause et on va revenir ensuite avec Laurence. On va parler un peu de théâtre, mais on va aussi parler surtout de cinéma, parce qu'on va s'attarder à un acteur très important dans l'histoire du cinéma américain. Il s'agit de Buster Keaton. On va écouter la pièce The Doing du groupe The Heavy et on revient avec Laurence.
Might not hurt you, but things will for sure. The words so well rehearsed pretend to sound original. But I don't see your eyes when you talk. Please don't say you love me.
C'était la pièce « The Doing » du groupe « The Heavy ». Bonsoir, Laurence.
Bonsoir.
Donc, on va parler d'un acteur américain qu'on connaît moins, en fait, qu'un autre très connu, qui est Charlie Chaplin, mais c'est un autre grand comique du cinéma américain qu'on connaît moins. Il s'agit de Buster Keaton.
Oui, exactement. En fait, c'est pas juste un acteur aussi, c'est un réalisateur et un scénariste. Il a fait plusieurs choses, mais on le connaît moins parce que son déclin à l'avènement du cinéma parlant a été beaucoup plus fulgurant que le déclin de Charlie Chaplin qui a été quand même assez important, mais Buster Keaton s'en est moins bien sorti, disons.
En effet. Et comment est arrivé au cinéma, Buster Keaton?
Ben, en fait, il a commencé parce que ses parents faisaient du burlesque. Puis il y a une anecdote, à savoir si c'est vrai, c'est pas sûr, mais disons, la légende veut qu'à un moment donné, son père, là, parce que son père souffrait d'alcoolisme, okay. Et il l'a pris, il l'a lancé sur un mur.
Ah ouais?
Dans un élan de violence. Et Buster Keaton s'en serait sorti sans aucune égratignure. Fait que son père a décidé d'utiliser ça. Et en fait, c'est Harry Houdini qui l'a appelé Buster. Parce okay. qu'il était incassable. Buster, si okay. ça veut dire casse-cou, incassable.
Ah, oh, je savais pas ça.
Ouais.
Parce que son vrai nom, c'est...
C'est Joseph
Frank Keaton.
Keaton, exactement.
Donc, il y a eu le surnom de Buster...
Par Harry Houdini pendant un spectacle. Parce qu'il était incassable. Fait que son père a décidé de se servir de ça dans le spectacle que sa mère et lui... et son père roulait depuis un certain temps, avant la naissance de Buster. Puis, donc, c'est ça, il a commencé sur la scène, dans okay. des spectacles burlesques avec sa famille, à faire des trucs comme ça. Puis, apparemment.
Puis, on est dans lesquelles années, là?
Il est né en 1895. Donc, okay. il a commencé à 5 ans.
Tout début 1900, du 20e siècle.
Oui, exactement. Ouais. Il a commencé très, très tôt. Puis, ça allait bien, mais pas assez à son goût, apparemment. Donc, c'est pour ça qu'il a eu envie d'aller vers le cinéma, de faire des affaires plus léchées, plus finies, une mise en scène plus correcte, moins d'improvisation, disons, qu'il aimait moins. Il aimait ça quand tout était seté, quand tout était au quart de tour.
Mais quand on parle du tout début du 20e siècle, là, il a vraiment commencé en même temps que le cinéma, dans le fond.
Oui, il a commencé en même temps que
l'invention. C'est un pionnier, là.
Oui, oui, exactement. Puis il a commencé avec un... J'ai oublié son nom, mais... Il l'a rencontré sur scène, puis ils ont commencé ensemble à faire des films, à faire des mises en scène vraiment plus, justement, léchées, puis avec une mécanique. Les mécanos de la Générale, c'est un de ses plus grands films. Puis en fait, ce film-là est décrit comme étant un des plus importants de sa carrière parce qu'il décrit exactement son propre travail à Buster Keaton.
Okay.
Parce que ça parle exactement du principe de faire une acrobatie cété pour que ça soit... quand même drôle, intéressant à voir, que ça n'a pas l'air d'être juste mis en scène et stagé. Mais, puis voilà, c'est ça.
C'est quasiment une chorégraphie. Moi, je suis allée, j'ai eu la curiosité d'aller voir des courts-métrages. Il a fait énormément de courts-métrages.
Ah oui, il a fait plus d'une centaine de courts-métrages, plus d'une centaine de longs-métrages, tout ça en 10 ans. En l'espace de 10 ans.
C'est quand même extraordinaire, ouais, il est extrêmement prolifique.
De 1919 à 1930, à peu près
oui.
Il a fait tous ses courts-métrages, tous ses longs-métrages, puis après, sa chute a été quand même assez drastique et importante, là, et d'un coup.
On parle beaucoup de sa technique corporelle.
Oui. Oui, bien, vraiment. Mais en fait, c'est ça qui faisait son... C'est pour ça aussi que quand le cinéma parlant est arrivé, ça a moins bien marché pour lui, parce que lui, ses capacités, c'était dans son jeu physique. Mm-hmm. Il était très fort avec son corps. Il savait où... Il savait... Tu sais, on dit souvent un punchline pour faire rire,
oui.
Mais lui, il avait... un punchline avec son... Tu sais, il savait faire le bon geste qui allait faire rire. Puis il l'avait moins avec la parole. Okay. Il l'avait moins en parlant. Fait que son personnage est devenu dilué un petit peu quand il a commencé à le faire avec la parole.
Okay.
Donc, avec le mouvement, ça y allait au bout. Il comprenait son corps. Il comprenait les... Il savait comment s'arrêter, les stop motion, des affaires comme ça. Il était très, très à l'aise, là.
C'est un peu comme des techniques de mime ou...
Oui, complètement. Ben, c'est de la pantomime, en fait.
Okay.
C'est... exprimer une émotion sans parole. C'est exactement ça. C'est le principe du... Mais tu sais, un mime ouvre une porte, mettons. C'est un grand cliché, là. Mais un mime va ouvrir une porte. On va faire un mime, je cherche la poignée, j'ouvre la porte. Je fais des gestes, ça sert à rien.
On est à la radio.
C'est ça. Ça sert à rien du tout. Mais c'est ça. Donc, tu sais, on cherche une poignée, on ouvre la porte. Ben lui, il va dire... une pantomime, c'est plus « je suis triste, je vais montrer que je suis triste, je vais montrer que j'ai maintenant du courage et que je vais quand même aller vers cette fille et je vais la crouser, puis ça va marcher. » Ça, c'est de la pantomime. Puis lui, il était très fort là-dedans de montrer sa volonté et ses actions par la pantomime, par le geste, beaucoup plus que par la parole.
On le surnommait « l'homme qui ne rit jamais ».
Oui, exactement. Ben en opposition à Charlie Chaplin.
Ah, c'est ça.
Qui était un homme joyeux, plus... En fait, j'ai... Dans une pièce de théâtre sur Buster Keaton que j'ai vue récemment, le cas Buster, ça s'appelle,
okay.
il faisait un parallèle entre Buster Keaton, Charlie Chaplin puis Harold Lloyd,
okay.
qui sont comme les trois grands comiques de l'époque, des années 30. Puis il faisait le parallèle, il disait Buster Keaton, lui, vivait, subissait sa société, la société qui l'entourait. Charlie Chaplin se révoltait contre la société. Le personnage, en fait, pas l'acteur en tant que tel, mais personnage de Charlie Chaplin se révoltait contre la société, alors que celui de Harold Lloyd essayait à tout prix d'entrer dans cette société-là. Donc, c'était trois personnages qui avaient le même but, faire rire, mais de trois manières différentes. Puis ce qui faisait rire dans le personnage de Buster Keaton, c'était
qu'il subissait.
Il faisait juste... Puis il subissait avec une espèce d'entêtement à essayer d'aller toujours au-delà, mais il le subissait. Il faisait juste vivre ce qu'il avait à vivre, puis c'était pas particulièrement joyeux. C'était pas vrai, puis il vivait avec.
C'est fascinant, c'est destiné au niveau de sa carrière, de la manière dont...
Vraiment.
Tu nous racontes un petit peu ce qui s'est passé?
Ben en fait, c'est ça. Tout est venu avec le cinéma parlant. Lui, il a essayé d'en faire deux, trois. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des agents qui sont venus le voir puis qui ont dit « Nous, on va prendre en charge. » Il ne savait pas comment en faire. Il ne savait pas s'il était bon. Il ne savait pas comment faire ça. Fait qu'il a mis sa carrière entre les mains d'agent de carrière. Puis ça a floppé complètement. Parce que, justement, il était bon avec les gestes. Il savait dire les trucs avec son corps, avec ses mouvements, mais pas avec sa voix. Et ça devenait plate, ça devenait dilué, ça devenait un gag sans punch. Ça devenait
Il était très jeune, là. Il avait 35 ans.
Il était tout jeune.
Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
Il a complètement disparu. En fait, son premier mariage, qui était avec Nathalie, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui était la fille d'un réalisateur qui, lui, le réalisateur en question, est allé dans les films parlants. Donc déjà, ça allait moins bien. Sa carrière allait moins bien. Il a sombré dans l'alcool. Il a passé 40 ans ivre.
Il a suivi les traces de son père.
Exactement. C'est d'une tristesse infinie, mais c'est ça. Il a fini sous toute sa vie.
C'est très intéressant quand on pense à la destinée... puis sa déchéance, là, tu sais, parce que c'est le self-made man qui part de rien, qui vient d'un petit milieu, qui devient une grande star, un réalisateur, puis la déchéance après.
Ça retombe, puis ils n'étaient pas si nombreux à l'époque non plus, aussi, il faut dire. Là. Ils n'étaient pas. Ça en avait trois. Puis quand un air, d'autres vedettes sont arrivées, la plus grande opportunité pour beaucoup plus de monde.
Le domaine du cinéma. Non, tout à l'heure, une pièce de théâtre qui a eu lieu à Québec.
Oui, qui a eu lieu, en fait, il y a deux semaines. Ça s'est terminé il y a deux semaines au Théâtre Périscope. C'était le cas Buster. C'était un qui a aussi à cause de Charlie Chaplin, qui a comme pris toute la place. Fait qu'il a décidé de le présenter au monde en écrivant une pièce à son sujet, en faisant une espèce de biographie. Il retrace tout son parcours sans aller dans le côté déchéance, là, mais... tout ce qui a fait de lui un grand homme, un grand comédien. Et c'est ça. Donc, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, mais ça recommence, là, ça va repartir en tournée l'année prochaine.
Ah oui?
Donc, c'est vraiment intéressant. Là. Il y a vraiment beaucoup d'informations au sujet de cet homme-là. Le gars, il a vraiment creusé pour aller trouver des trucs intéressants.
Puis il a travaillé aussi sur la mécanique corporelle, je pense. Hein?
Aussi, la mise en scène était très, très épurée. Il n'y avait pratiquement pas d'éléments de décor, pratiquement pas d'accessoires. C'était que les trois comédiens sur scène qui jouaient tout ce qu'il y avait à jouer. On imaginait un train, on imaginait une chambre, on imaginait... tout ce qu'on voulait imaginer, c'était très, très clair parce que, justement, les trois comédiens l'utilisaient et le faisaient sentir par leur corps, la même technique que Buster Keaton utilisait lui-même. Donc, c'est vraiment un beau clin d'œil.
Comme quoi la culture américaine appartient à tout le monde.
Et oui, et tout le monde peut se l'approprier et tout le monde a envie d'en parler.
Merci beaucoup, Laurence.
Ça fait plaisir.
Alors, on va faire une dernière pause. On va terminer l'émission avec Martin. Assez amusant entre l'Empire américain et l'Empire romain qui a connu aussi une suprême. Et pour introduire l'hymne américain, interprété Star Spangled Banner. Thank you. Donc, c'était la célèbre interprétation de Jimi Hendrix de l'hymne américain. Ça s'appelle « Star Spangled Banner ». Bonsoir, Martin.
Salut, Catherine.
Donc, tu vas nous démontrer la montée et le déclin de ce qu'on appelle l'Empire américain.
Ah, c'est méchant impérialiste.
C'est méchant impérialiste.
Mais qui d'ailleurs, comme tout empire, les États-Unis suscitent beaucoup de réactions. On les haït, on les aime, on voudrait être comme eux autres,
on
voudrait
admire.
Qu'ils n'existent pas, etc., etc. Et plus qu'on les haït, plus qu'on voudrait être comme eux autres. Non, mais c'est fascinant.
C'est vrai.
Au Moyen-Orient, c'est vraiment comme ça. Pas tout le monde, évidemment, mais plusieurs personnes, ils haïssent pour les tuer, mais d'un autre côté, ils veulent tout avoir, un iPod, un char, un ci, un ça. Mais bref. On ne s'étendra pas là-dessus.
On pourrait, mais...
On pourrait longtemps. Les États-Unis, évidemment, ce n'est pas le premier empire qui existe sur la planète. On en a connu plusieurs. Il est important d'abord par sa durée, parce que ça fait... on peut parler que à partir de la deuxième moitié du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui... la planète, l'empire dominant, si tu
veux. Vit sous l'hégémonie américaine.
C'est les États-Unis.
Oui.
Il y a eu l'URSS qui, pendant un certain temps, était aussi une superpuissance, etc., etc. Mais il demeure que, ils ont fait la preuve que eux sont restés, puis l'URSS est disparu.
Oui.
Alors, comme tout empire, ça suit un petit peu le même cycle évolutif, je dirais. C'est-à-dire que l'empire a son début, après ça, il a son apogée. Puis après ça,
ça amorce
le déclin qui peut durer plus ou moins longtemps. Alors, comment ça naît un empire? Ça naît de... Il y a plusieurs façons que ça peut naître, mais disons qu'il y a des facteurs de base qui vont déterminer sa durée. Tout d'abord, il y a le contexte. Alors, le contexte, c'est quoi? Les États-Unis, c'est une grosse masse en termes de superficie. Alors, donc, ils ont beaucoup de ressources. OK? Ça fait partie du contexte. Mm-hmm. Il y a aussi les tendances. Alors, les tendances, c'est quoi? Avant que les États-Unis émergent, on avait un autre empire, qui était l'Empire britannique, qui était là. Alors ça fait partie des tendances. Lui, était commencé à décliner tranquillement. Et finalement, il y a aussi le rôle des individus. On pense, par exemple, un individu qui va... motivé ou qui va faire avancer des conquêtes militaires, si tu veux, parce que tu as des empires qui se sont bâtis comme ça. Les États-Unis, c'est plutôt un empire économique, bien qu'ils ont une force militaire incroyable. Ils ont d'abord bâti leur empire au niveau de l'économie de cette façon-là. Si on pense, par exemple, à Napoléon. Napoléon, lui, c'était des conquêtes militaires. Par contre, Napoléon, lui, n'était pas appuyé ni par le contexte, ni par les tendances.
Okay.
Alors, ça n'a pas duré longtemps.
Okay.
L'empire de Napoléon, oui, il a fait des très grandes choses. C'est un génie militaire, si tu veux. Mais bon, parce qu'il n'était pas appuyé du reste, comme les États-Unis l'ont été, comme Rome l'a été, comme d'autres empires. Ça n'a pas duré longtemps. Genghis Khan était aussi un gars qui, lui-même, par sa seule présence a réussi à faire un empire, l'Empire mongol. Mais bon, ça s'est dissous à sa mort.
Ou Alexandre le Grand.
Assez rapidement. Ça, c'est un petit peu différent, mais ça a duré quand même un petit peu plus longtemps. Bref, tout ça, c'est les grands facteurs qui déterminent la durée de vie d'un empire.
Ouais.
Alors, on peut parler des États-Unis et de Rome. Dans les deux cas, une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont remplacé un empire qui existait déjà.
Oui.
Alors, comme je disais tout à l'heure, les États-Unis ont remplacé la Grande-Bretagne et Rome a, à toute fin pratique, remplacé la Grèce.
Ou poursuivi un petit peu le...
Mais les deux parallèles sont intéressants parce que, une fois les deux empires précédents, si tu veux, une fois qu'ils ont laissé leur place et à Rome et aux États-Unis, ils ont continué à exercer une influence très forte. Surtout au niveau culturel.
Mm-hmm.
Alors, il semblerait que la durée de vie, si tu veux, culturelle d'un empire est beaucoup plus longue que l'empire lui-même.
Ah oui?
Parce que...
Les influences.
Oui, tout à fait. On peut, puis d'ailleurs, les empires, les nouveaux empires ont tendance à admirer et à trouver l'empire précédent plus raffiné, etc., etc. C'était le cas des Romains avec les Grecs.
Ça, c'est le syndrome de « avant, c'était mieux ».
Oui, si tu veux, effectivement. Dans le cas des Romains, les Grecs, qu'est-ce que c'était les Grecs? Pour eux, c'était toutes les institutions romaines viennent des institutions grecques.
Oui.
Les scientifiques, tous les grands écrits, tout ça, c'était grec. Et quand on voulait l'art, la culture en général, tout ça, c'était grec. César savait parler grec couramment.
Oui, oui, oui.
OK.
La langue grecque est restée durant l'Empire romain, finalement.
Comme langue scientifique, oui. Comme langue des arts et de la culture. Évidemment, les États-Unis n'ont pas le même problème avec la Grande-Bretagne. C'est à toute fin pratique la même langue, à part l'accent.
Oui.
Mais tout au long du 19e, du 20e siècle, ce qui venait d'Angleterre, ça a toujours été, pour les Américains, plus raffiné, plus culturellement valable. On n'a qu'à penser, en termes de musique, les invasions britanniques, les British Invasion au niveau de la musique, se sont fait à répétition. Puis pourtant, les États-Unis étaient un empire établi et tout ça. Et ils se sont fait rentrer dedans au niveau culturel par la Grande-Bretagne qui produisait des choses plus intéressantes.
Jugées plus intéressantes, en tout cas.
Jugées plus intéressantes. Alors, c'est ça, le grec, j'en ai parlé. Alors, on peut supposer que même quand l'Empire américain sera effectivement mort et enterré, les Chinois vont continuer à écouter des productions d'Hollywood et Michael Jackson et tous ces trucs-là. D'ailleurs, le rôle que le latin a joué après la disparition de l'Empire romain, le latin est resté en religion, en science, et demeuré la langue, si tu veux, utilisée par les médecins, les avocats,
jusqu'à tout, le clergé. Récemment, là.
J'ai fait mon latin, moi, puis je disais, c'est une langue morte, là.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, on comprend.
Donc, l'anglais va être là longtemps.
Avec l'Internet, il est possible que ça devienne une espèce de langue, effectivement, une seconde langue pour bien des gens.
Mais alors, c'est déjà une seconde langue pour bien des gens. Oui, c'est déjà la langue la plus utilisée dans le monde. Là.
Tout à fait. Alors, on a une naissance de l'Empire américain qui, si tu veux, est déjà là au début du 20e siècle.
Oui.
Okay?
Oui.
C'est déjà une puissance commerciale et économique importante. Et la Grande-Bretagne, l'Empire britannique, commence tranquillement à se désagréger. On perd des colonies une de temps en temps. Pour arriver à la Deuxième Guerre mondiale, où là, c'est vraiment les États-Unis qui deviennent le premier empire, l'empire de première importance sur la planète. Et c'est la date où on peut dire vraiment, parce qu'à partir de cette date-là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, c'est 50 % de la production des biens de la planète, c'est 50 % de la consommation des biens de la planète. Bref, ils sont à peu près tout seuls. Le reste est plus ou moins détruit, là, si tu veux.
À cause des grandes guerres.
Grandes guerres en Europe. Et le reste de la planète, bon, mais les Chinois ne sont pas là. Tu sais, je veux dire, les Japonais sont aussi détruits à cause de la guerre. Alors, il y a un vide. Alors, ça aussi, c'est un autre phénomène qu'il faut comprendre, c'est qu'un empire souvent prend la place
disponible.
Disponible. Ça fait partie des grandes tendances dont je parlais tout à l'heure. L'apogée des États-Unis, on peut donc la commencer, si tu veux, après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Et il y en a qui disent qu'à partir de là, ça descend. Et ils n'ont pas tort dans le sens où, effectivement, comme je disais, il y avait 50 % de la production et 50 % de la consommation. Puis à partir de là, ben, ça ne fait que descendre. Mais c'est d'oublier bien des choses et bien des accomplissements. Moi, l'apogée que je vois, c'est la conquête de la Lune, qui, d'après moi, est le haut fait de cet empire-là. C'est la conquête de la Lune. C'est de mettre un gars sur la Lune, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui, c'est épique.
que les livres d'histoire vont se rappeler. Une chose intéressante, si on regarde Rome, son apogée est assez facile aussi. A duré quand même plus longtemps, si tu veux. On pourrait partir de César, qui, d'après Astérix, est en moins 50 avant Jésus-Christ. Et on peut rendre ça jusqu'à peu près en 117, qui est, à ce moment-là, l'empereur s'appelait Trajan ou Trajan, là, je ne sais trop comment ça se prononce.
Je pense que c'est Trajan.
Et à ce moment-là, en 117, c'est là où l'empire est à son maximum en termes de superficie de territoire, si tu veux.
OK. Alors, cette il y a une apogée territoriale.
Cette période-là de l'Empire romain, de moins 50, si tu veux, à 117, serait une espèce de plateau. Mm-hmm. Puis après ça, ça amorce un déclin. Quoique, on peut parler de décadence bien avant ça, là, en termes de on est riche et tout va bien, puis on fait le party, là. Je veux dire, on n'a qu'à penser à Caligula, Néron, etc. Déjà, on sent que, bon, ça ira pas plus haut, si tu veux, mais ça n'a pas commencé à baisser vraiment avant 117.
OK.
Chose intéressante, le gars qui a parti la course à l'espace, qui a mis un gars sur la Lune, c'est Kennedy. Et la contrepartie de ça de Rome, si tu veux, c'est César. Oui. Et les deux ont été assassinés.
Alors, on savait qu'il était pour y avoir des similitudes à un moment donné.
César par ses pairs. Kennedy, on ne sait pas trop encore par qui, mais de toute évidence, il y a quand même un parallèle à faire. Là.
Peut-être que Kennedy est assassiné par ses pairs. Hein. Il y a des théories là-dessus.
Il y a beaucoup de théories, effectivement, mais on ne le saura pas tout à fait. On pourrait continuer les comparaisons sans aller jusqu'à comparer Bill Clinton à Caligula pour des raisons évidentes. Par contre, on pourrait dire que George W. Bush pourrait peut-être se comparer à Néron.
Oh.
Quand on voit le... Non, mais on parle... C'est pas
gentil, ça.
Non, mais dans le sens où Néron, la petite histoire nous dit qu'il jouait du violon pendant que Rome brûlait, ce qui est totalement faux d'après les historiens. Mais moi, pour avoir vu le petit vidéo de George W. Bush qui donne une espèce de petite conférence à des enfants d'école, puis là, il apprend
que les deux tours viennent de sauter.
Puis là, c'est pas grave, il continue. Ça fait un peu le gars qui joue le violon, alors... Ça m'a fait penser à ça.
Oui, oui. Non, mais là, il y a vraiment une similitude, j'avoue.
Et George, il y aura eu la chance d'assister à ce que j'appelle vraiment la fin du plateau d'apogée. Oui. Parce qu'à partir du moment où on a...
Les tours se sont écroulées.
Il se passe de quoi, là?
Oui.
C'est sûr que, bon, il y a eu le miracle, si tu veux, de la Deuxième Guerre mondiale en termes de productivité puis d'économie puis tout ça. Après ça, on a mis un homme sur la Lune. Là, on a pris un petit repos avec la guerre du Vietnam, Nixon, tout ça, ça allait mal. Ça aurait pu se terminer là. Mais on a eu une espèce de renaissance de l'apogée en question avec un Ronald Reagan qui a galvanisé tout le monde, avec le miracle technologique des années 90. Donc, ça a étiré tout le phénomène, si tu veux, jusqu'en 2001. Et on connaît la suite, là, à partir de là, la crise financière de 2007-2008, etc., etc. Fait qu'on semble vraiment avoir tourné une page là, autour de septembre. Fait aussi quand même à noter, en 98-99, la Chine a repris possession de Hong Kong.
Alors, oui, ça a été déterminant, au niveau économique. Là.
En même temps qu'est arrivé les incidents, si tu veux, de 2001, la Chine a commencé son envol, vraiment. Oui. Parce qu'avant ça, la Chine, oui, c'était là, ça montait tranquillement, mais pour dire que ça prenne un espèce de poids là, sur la place, sur l'échiquier mondial, c'est vraiment fin 90, début 2000. En même temps que les États-Unis commencent à descendre, la Chine accélère son rythme, si tu veux.
Donc, si je comprends bien, tu nous prédis que la Chine sera le prochain empire, là?
Je fais pas de prédiction à ce niveau-là. Après ça, bien, évidemment, les parallèles entre Rome et les États-Unis ne s'arrêtent pas là. Je parle de Rome au temps de la République, là, à César et avant. Le système politique est à peu près le même. Ce sont des gangs.
Ah, le Sénat, puis le président qui a un pouvoir.
C'est quoi, tu sais? Je veux dire, c'est le 1% de l'époque qui gère la patente.
Oui.
Et à Rome, c'était comme ça. Hein? On parle de Crassus, c'est vraiment la grosse argent qui gère tout ça. Et comment ils se rendent là? Parce qu'ils ont une panoplie d'esclaves qui font le travail pour à peu près rien. Alors, on pense aujourd'hui au même système. C'est exactement la même chose avec les États-Unis. C'est la main-d'œuvre bon marché, qu'ils soient en Chine ou ailleurs, ou des enfants qui font des chou-claques en Thaïlande. Peu importe, mais c'est de l'esclavage au même titre que les Romains. Les esclaves romains n'étaient pas plus maltraités que ces gens-là, là, qu'ils le peuvent
C'est intéressant,
aujourd'hui.
Cette comparaison-là, quand même, C'est vrai.
Alors, c'est ça. Le déclin...
C'est vrai. On imagine.
Oui, on imagine. Ça n'enlève rien, c'est ça, au progrès technologique. Puis tout ça, on ne peut pas comparer les États-Unis à Rome. Mais je veux dire, puis non plus en termes de temps, parce que Rome aura duré des siècles et des siècles, tandis que les États-Unis...
Mais dans ce temps-là, il était plus lent. T'sais, aujourd'hui, ça va vite.
Tout va plus vite, effectivement. Et on sait que le déclin est encore... Le déclin est amorcé, ça c'est clair. Combien de temps ça va durer, on n'en a aucune idée. Mais par contre, les Américains peuvent toujours se consoler en se disant une chose, l'Italie existe toujours.
Sur ces bons mots, merci beaucoup, Martin. Avant de conclure, pour les remerciements, j'avais promis à Gab qu'il y aurait une petite gâterie. Alors, c'est l'heure du cadeau pour terminer cette première émission sur l'Amérique. Donc, on va se faire un petit plaisir avant de se quitter. Allez, on monte le volume, puis on chante tout le monde ensemble. Musique, maestro.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais. Cela commence par un peu de chagrin, l'Amérique. Mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je m'en vais. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurais. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter sans pour la chanson de l'Eldorado. L'Amérique, je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broyé d'argent, ou sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Sirènes de bateau vont chanter sans prendre la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je m'en vais. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai.
Donc, si vous ne l'aviez pas reconnu, c'était Joe Dassin. Excusez-la. Non, j'ai pas Michael Jackson. Donc, merci. Merci tout le monde. Merci à la librairie Saint-Jean-Baptiste pour son accueil chaleureux qu'elle nous fait à tous les premiers lundis du mois. Merci David aussi pour son accueil. Merci à Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission. Merci à mes invités Roxane, Simon, Laurence et Martin. Merci à l'équipe technique, Anaël à la mise en onde et Bic Nick, toujours sans qui rien ne serait possible, qui nous héberge sur son site web Radio Fiat Lux. Donc, le mois prochain, l'émission sera enregistrée le 1er avril et on poursuit sur le même thème. Je vous donne un teaser. On va parler du contrôle, ou plutôt du non-contrôle des armes à feu. Bonsoir. Oh.